Donc, première des choses, selon vous, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague?
C'est une question qui est complexe à répondre parce que c'est la première fois que l'humanité est confrontée à une pandémie de coronavirus. Donc ça, c'est du jamais vu. Hein, dans ce terme-là, c'est historique. Ce qu'on sait présentement sur la planète Terre, c'est qu'il y a certains pays présentent ce qui pourrait s'apparenter à une recrudescence de cas après une période d'accalmie. Et on pourrait dire à ce moment-là, lorsqu'on regarde le graphique, que ça ressemble à une deuxième vague. Par contre, il faut faire attention qu'on parle de deuxième vague parce que les gens mélangent souvent le phénomène de l'influenza avec la COVID-19. Et ça ici, c'est deux phénomènes complètement différents. Tout le monde parle de la fameuse grippe espagnole de 1918-1919, où il y a eu justement ce phénomène de deuxième vague qui a été vraiment beaucoup plus grave que la première. Il faut comprendre que les pandémies de grippe, ce qui n'est pas du tout le cas présentement, c'est une pandémie d'un nouveau virus qui est le coronavirus. Ce sont deux virus complètement différents, mais qui peuvent partager certaines similarités, entre autres que ce sont des virus respiratoires qui se transmettent par gouttelettes. Mais les pandémies de grippe, généralement, naissent à l'extérieur des saisons grippales habituelles. Pour l'hémisphère nord, la saison grippale commence généralement à la fin de l'automne. Les pandémies prennent naissance généralement de façon un petit peu curieuse et souvent un peu inaperçue à l'extérieur du patron habituel de la saison grippale normale, comme par exemple la grippe de 2009, qui était la dernière pandémie grippale qu'on a connue. Elle est apparue aux États-Unis, Mexique, en plein été 2009. Et la pandémie d'influenza de 1918, ce qui est la grippe espagnole, elle aussi a commencé à apparaître à l'été. Ça aussi, qui n'est pas la période normale de l'activité grippale. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça commence, donc il y a des porteurs, il y a des gens infectés, et tranquillement, cette éclosion devient pandémie, et là, elle rejoint la saison grippale habituelle, ce qui est la fameuse deuxième vague, plus grave, pire que la première vague. Ça, c'est quelque chose qu'on voit classiquement avec l'influenza. Ici, pour la COVID-19, ce qui semble se produire, c'est avec le relâchement des mesures de distanciation physique, c'est l'apparition de grappes un peu partout, et effectivement, ben plus qu'il y a de grappes, plus qu'il y a de cas, de mini-éclosions, ben là, ça augmente le nombre de cas. Puis comme on peut voir au Nouveau-Brunswick, ce qu'on a vécu dans la région de Campbellton il n'y a pas si longtemps, c'est qu'une grappe peut devenir rapidement hors de contrôle, infecter beaucoup de gens, et avec la COVID, ce qu'on sait, c'est que ça amène un fardeau lourd pour le système de la santé. Hein. Quand les cas sont hospitalisés, c'est pas facile. C'est des gens qui deviennent très malades. Les soins sont compliqués. Donc, est-ce qu'il va avoir une deuxième vague? C'est une question hypothétique. Personne n'a vraiment la réponse définitive. Moi, je pense qu'on peut s'attendre d'avoir, surtout dans notre contexte canadien, avec l'état de l'éclosion l'état de nos cas qu'on a présentement, ce qui est très faible par rapport à de nombreux autres pays, c'est qu'on est à risque d'avoir des grappes apparaître continuellement, que ce soit par voyageurs, par le déplacement, par l'importation de cas infectés. Donc ça peut arriver. Mais est-ce que ça va devenir une très grande vague de cas, ça, c'est très difficile à prédire pour l'instant. Mais si on maintient les mesures de distanciation physique, donc on recommande de plus en plus le port du masque universel dans les activités de la vie de tous les jours, dans la communauté, toutes ces mesures-là vont aider à maintenir les cas de COVID au minimum. Et là, ça évite justement l'apparition de plusieurs grappes simultanées, ce qui pourrait amener effectivement une augmentation importante de cas. Certains pays vivent présentement une deuxième vague. Quand on regarde les courbes, là, on voit vraiment là une augmentation nouvelle. Aux États-Unis, c'est pas vraiment une deuxième vague, c'est plus un continuum de la première vague qui ne cesse de monter et de grimper depuis les dernières semaines. Là. Encore là, parce que tout le monde voit bien que c'est par un relâchement trop rapide, trop hâtif des mesures de distanciation physique que les gens ont entrepris aux États-Unis. Là.
D'accord, je disais ça dans certains journaux dans les derniers mois, on dit assez fréquemment qu'aucune pandémie connue dans le monde, on pense à la peste noire, à la grippe espagnole et à d'autres exemples, n'a pas connu de deuxième vague. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là?
C'est toutes les pandémies ne sont pas comparables l'une par rapport à l'autre. Donc, si on compare la peste du Moyen Âge, si on compare le choléra, si on compare la grippe espagnole, déjà là, on compare des bactéries avec des virus, et ça, c'est impossible de faire un corollaire. C'est comparer des pommes avec des oranges dans le fond. Là. Il faut éviter ça. Mais c'est que toute pandémie ne donne pas automatiquement une deuxième vague. La pandémie, c'est une définition épidémiologique qui se prête à n'importe quel agent infectieux qui se transmet simultanément dans plusieurs continents. Donc, on peut parler de la pandémie du VIH, on peut parler de la pandémie du virus du papillon humain, on peut même parler de la pandémie de l'herpès génital. Donc, ce sont tous des virus qui se répandent ou des agents infectieux qui se répandent simultanément dans plusieurs pays. Ça qui est une pandémie. Ici, ce qu'on voit par contre, c'est que la grippe, l'influenza, c'est un virus saisonnier qui a tendance à revenir de façon prévisible à chaque hiver et à toutes les 15, 20, 30 ans, encore là, ça peut varier, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle pandémie de grippe, mais là, on a une pandémie de grippe. Cette pandémie de grippe-là, c'est l'apparition d'un nouveau virus, d'une nouvelle souche d'influenza qu'on n'a jamais connue auparavant. Dans le dernier siècle, mettons si on parle depuis la pandémie de 1918, on a reconnu environ 4 pandémies de grippe. Là. Donc, la grippe espagnole, la grippe asiatique en 57-58, la grippe de Hong Kong 1968 environ, puis la dernière qui est la grippe porcine qu'on a appelée là, en 2009. Donc, c'est pas toutes les pandémies qui automatiquement font une deuxième vague. Là. La pandémie, c'est un terme épidémiologique. Certains agents infectieux se répandent. Il y a une augmentation de cas et après ça, une réduction des cas. Ce qu'on appelle une épidémie en cloche, dans laquelle il y a une augmentation soudaine et après ça, une diminution des cas. Donc ça, c'est souvent l'évolution naturelle d'une maladie infectieuse qui avec une éclosion. C'est une augmentation de cas, puis après ça, les cas, ils diminuent, soit parce que les gens sont immuns, parce qu'il y a des mesures qui sont prises pour contrôler l'épidémie. Tout ça fait qu'une épidémie suit normalement une forme de cloche. C'est pas parce que c'est une pandémie, c'est pas parce que c'est une éclosion que automatiquement ça va créer une deuxième vague forcément là. Ça c'est très variable d'un agent à l'autre. Là.
D'accord. Puis il est déjà difficile de déterminer s'il va y avoir une deuxième vague. S'il devait y en avoir une, croyez-vous qu'elle pourrait être plus forte que la première?
Ben, si on regarde ce qui se produit présentement au Canada, donc je pense qu'il faut être très rassuré parce que le début de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020, faut dire que quand ça l'a frappé, on parlait de quoi? On parlait de pénurie de masques, on parlait de d'incapacité de faire les tests, de nombre insuffisant de trousses pour faire le diagnostic, d'aucun test sérologique. Le vaccin, on disait, ben, faut même pas y penser. Donc, aujourd'hui, beaucoup de ces problèmes-là sont résolus, c'est-à-dire les masques, les protocoles dans les hôpitaux, les mesures d'isolation, l'accès aux tests diagnostiques, éventuellement, bientôt, au Nouveau-Brunswick, les tests sérologiques vont être disponibles, et aussi beaucoup d'espoir sur des médicaments. Donc, au Canada, avec la réduction massive des cas, ça qui a permis au système de santé de se relaxer un peu, d'avoir beaucoup plus de capacité, d'être moins surchargé, mais on est beaucoup plus prêt dans le fond à confronter une augmentation de cas. Donc moi, ce que je pense qui peut arriver, c'est effectivement l'apparition de grappes. Des mini-éclosions, des petits feux que l'on peut éteindre assez facilement parce que on a beaucoup plus de facilité maintenant, donc la prise en charge des contacts, les mesures d'isolation, l'accès aux tests diagnostiques. Donc tout ça facilite la prise en charge et justement l'extinction d'un feu si on compare ça pour la grappe là. Donc Mais si on retourne au mois de mars, on n'avait pas accès à tous ces outils-là, donc c'était beaucoup plus compliqué. Fait que là, c'était planétairement le même problème. Donc beaucoup de pays ont connu justement cette augmentation très très importante de cas de COVID qui a justement créé cette vague là, cette apparition importante de cas. Là, qu'est-ce qui nous attend au Canada? C'est très peu de cas, mais dans les dernières semaines, c'est toujours ça, c'est des petites éclosions, des petites grappes, une éclosion dans un bar, un groupe de gens qui se sont infectés, ou des événements de super propagation. Donc je pense que c'est ça le risque qu'on va avoir pour les prochaines semaines et les prochains mois, mais en restant vigilant avec beaucoup de travail de la santé publique, faut dire que c'est une pièce très importante dans cette situation. Ça nous permet d'éviter le pire. Donc la situation qui se déroule présentement aux États-Unis, c'est grave, mais au Canada, on a vraiment pu contrôler très bien notre situation.
Tout à fait. Est-ce que vous pensez que la COVID-19 pourrait partir d'elle-même d'ici septembre, d'ici janvier?
Ben, ce qu'on voit présentement, c'est les gens avaient mis beaucoup avaient soulevé cette possibilité-là. Les gens faisaient des corollaires avec le SRAS de 2002-2003. Ce virus-là a disparu littéralement de la surface de la Terre après son apparition sur environ 7-8 mois. Là. On n'a pas revu le SRAS de 2003, là, à part de quelques petites éclosions souvent reliées à des incidents de laboratoire. Ce virus-là est disparu. Pour ce qui est de la COVID, mais si on compare le nombre de cas de SRAS par rapport au nombre de cas de COVID, on dépasse les 4-5 millions. Là, j'ai pas le dernier chiffre, malheureusement, mais c'est deux poids, deux mesures. C'est complètement différent. Et on voit une persistance de cas, des grappes. Certains pays remarquent une augmentation importante des cas. Les chances de voir le virus disparaître complètement, comme a fait le SRAS en 2003, je pense que c'est presque impossible à envisager là présentement en voyant l'évolution des choses. C'est un virus qui est présent, qui a malheureusement infecté une très, très, très grande proportion de l'humanité. Et là, ben on est confronté à l'apparition de cas, surtout au Canada, là, qui continue et qui persiste. Donc, d'où l'intérêt pour à la fois le vaccin et aussi, il faut le souhaiter, des médicaments. Là.
D'accord. Donc, si je résume un peu ce que vous m'avez dit, une deuxième vague, on ne sait pas encore s'il va y en avoir une. On croit qu'au Canada, en tout cas, il va y avoir d'autres foyers épidémiques qui vont être plutôt contrôlés. Puis, pour ce qui est du virus qui va disparaître de lui-même, ça semble peu probable. C'est un peu ça.
Oui. Je pense que c'est impossible à envisager la disparition du nouveau coronavirus de lui-même, justement par l'étendue. Il y a beaucoup de défis. Les porteurs très peu symptomatiques, voire même asymptomatiques. La quantité de cas, c'est pratiquement devenu hors de contrôle dans plusieurs endroits. Là. Donc, tout ça fait que le virus va très probablement persister avec nous pour encore très longtemps. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut pas faire? Parce que les gens parlent souvent de la grippe espagnole de 1918 avec cette fameuse deuxième vague qui a été beaucoup pire que la première, mais avec le nouveau coronavirus, c'est pas automatique qu'on va voir ce phénomène-là partout. Certains pays voit justement une augmentation, une deuxième augmentation de cas, là, qui s'apparente d'une certaine façon, descriptivement parlant, à une deuxième vague. Mais c'est pas automatique. Par exemple, au Canada, on va avoir une deuxième vague. Là. Ça dépend de beaucoup de choses, des mesures de distanciation physique, de la façon qu'on va gérer les cas, les mesures de santé publique, les tests diagnostiques, les frontières, le contrôle des voyageurs, les mesures de quarantaine obligatoires. Donc, tout ça nous aide énormément. Et on a pu avoir un excellent contrôle au Canada, malgré tout. Là, ça dégrade dans plusieurs provinces canadiennes. Beaucoup de morts, beaucoup de gens malades. Mais là, on commence à voir de l'espoir que ça diminue et on a un excellent contrôle. Par exemple, la fameuse bulle atlantique là, depuis quelques semaines. Donc, mais tu sais, on continue à voir encore le risque. C'est toujours un rappel. Le virus, il est toujours là. Le virus, il est toujours présent avec nous parce qu'il y a encore, à ce jour, dans les provinces atlantiques, des grappes, des cas qui arrivent ici et là. Mais avec tout le déploiement des mesures qu'on peut avoir, on arrive vite à contrôler ça. Et aussi longtemps qu'on contrôle ces grappes-là, on peut pas perdre le contrôle de notre côté. Si on arrive à gérer chaque éclosion, chaque grappe adéquatement, ben le feu s'éteint.
Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je sais pas si c'est super que c'est clair, mais en tout cas, c'est la façon que je peux l'expliquer, mais...
Non, c'est ça, inquiétez-vous pas.
Parfait.
C'est très clair.
OK. Je sais pas.